Alors nous voilà, on écoutait Deus Rosis et nous voici maintenant avec Gaëtan Lorenzoni.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir, bienvenue dans notre émission. On se réjouit que tu nous débriefes et que tu nous expliques cette étrange œuvre d'art et cette impressionnante et intrigante. Justement, j'ai vu beaucoup de gens qui jouaient avec. On va peut-être expliquer, faire un petit descriptif.
Ah ben Gaëtan, ben je vais la laisser expliquer elle-même son l'œuvre qu'elle a faite expressément pour le musée et qui est plutôt sympa.
Ouais. Classe.
Original. Donc ici, le principe de mon œuvre qui s'appelle Extension, c'était une idée de réinterprétation du monolithe, comme dans l'Odyssée de l'espace. Dans le but de faire une incorporation d'un milieu, j'ai tenté de créer une extension de l'espace. Mon but tout premier était vraiment que la personne ne se retrouve plus non devant, mais dans l'œuvre, et que ce monolithe ne reflète pas non seulement la personne, mais aussi tout l'espace qui l'entoure. Tout ce qui est vraiment autour et vraiment ouvrir la perception des choses, c'est ça que j'aime beaucoup parce que le noir, c'est une couleur qui envoie vers une grande profondeur et qui nous envoie aussi dans une introspective. C'est ce qui m'a vraiment plu dans cette recherche et qui est même abouti à quelque chose d'au-delà d'une recherche. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a aidé moi aussi à faire une introspective. Ça a élargi énormément ma vision des choses sur le miroir, le reflet, ce que ça interprète.
C'est chouette. J'ai vu que les gens réagissaient. C'est une œuvre un peu interactive, si on veut. Les gens se regardent et puis utilisent leur smartphone, les malins. Y en a qui prenaient des photos, même d'eux en noir, reflétées.
Dans l'œuvre. Mais c'était ma question, c'était de dire, tu réponds. Donc on demandait une réponse par rapport au musée, aux lignes de collection. Toi, tu...
Ma manière de répondre, c'était d'agrandir encore cet espace et de mélanger le spectateur à l'œuvre, à l'art contemporain, mais aussi à l'art qui est déjà présent dans le cursus, et que le spectateur se voit autant qu'il se masque par la peinture. C'est un reflet, mais c'est pas absolu. C'est vraiment une représentation, en fait.
Et donc on fait partie intégrante de ton monolithe.
Et par contre, je me pose la question, parce que quand on a fait le tour du musée, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir une superbe visite guidée grâce à l'Inner Space. Hein. Merci Luc. Mais je veux dire, le fait d'utiliser le smartphone, etc., est-ce que c'était suggéré quelque part ou...
Moi, c'était vraiment laisser la libre interprétation et je trouve ça très intéressant de voir la manière différente que les gens ont de l'approcher. Je sais qu'en général, dans une œuvre d'art, on invite très rarement à toucher ou à se rapprocher. Et justement, mon monolithe, c'est d'être le plus proche possible, d'être vraiment en contact avec la peinture. Et je travaille énormément sur le sens olfactif. Et quand on rentre dans cette pièce, malgré qu'on est nomade, si on laisse passer un petit peu à bout de notre nez, on sent vraiment cette huile de lin qui est fort présente dans mon travail. Et ça mélange vraiment l'odorat à l'art visuel et ça fait une connexion dans notre cerveau. Vu que le sens olfactif est directement connecté à notre mémoire, je trouvais ça important de le mélanger aussi.
Et donc, pour rebondir un peu sur ce que Leslie disait avec les smartphones, on peut imaginer que cette œuvre, 20 ans, je pense, 20 ans les smartphones, 10 ans, 10, 15 ans, il y aura peut-être eu des interactions totalement différentes avec cette œuvre.
Tout à fait, c'est même intéressant de voir comment au jour d'aujourd'hui on peut interpréter l'art. C'est beaucoup derrière nos téléphones, encore plus d'actualité avec le confinement. On se regorge encore plus derrière nos téléphones. Mais rien à faire, je trouve que même moi qui ai beau prendre mon travail sous tous les angles pour réussir à avoir de belles photos, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de le voir et de le sentir et de le respirer.
Complètement, mais il y a cet effet, je trouve, de miroir avec le smartphone, on se prend en photo régulièrement. Enfin, il y a ce côté narcissique. Comme tu dis, on ne vit plus réellement les instants et on veut plus faire une photo de soi à côté d'une œuvre ou de quelque chose que de la regarder réellement. Et moi, ça m'avait saisi une fois à Lens, dans une extension du musée Pompidou, où les gens regardent les œuvres à travers leur téléphone.
Oui, c'est très intéressant.
C'est incroyable.
Oui.
Et ça fait que quelques années, je pense que dans les musées français, c'est autorisé en fait de prendre des photos. Je crois qu'avant, ce n'était pas le cas. Et pareil, j'ai eu la même expérience. Et je trouve que c'est un peu délicat parfois parce que, enfin, moi qui aime aussi, je veux dire, profiter vraiment de l'œuvre directement. Et parfois, tu es un peu coupé par des gens qui ont envie que tu te pousses pour pouvoir prendre le truc en photo. C'est vrai que c'est assez interpellant, je trouve. Pas être présent vraiment à l'expérience, en fait.
Complètement, et j'allais juste dire, à mon avis, les appareils auditifs et tout ce qu'on a fait pour un peu augmenter l'expérience, joue dans le fait, en fait, de mettre un recul.
Une distance, ouais.
Une distance par rapport à l'expérience initiale.
Et bon, je me demande si c'est pas un discours de vieux réac, mais bon, voilà, on devient vieux.
Des fois, il faut assumer son côté réac.
En tout cas, il y a des artistes qui s'intègrent d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, dans l'exposition. Ton œuvre, pas du tout. Hein. C'est comme si un monolithe extraterrestre était venu se poser là, en plein milieu des œuvres. C'est fait exprès, c'est un peu pour...
Ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment ce côté colossal, de sentir complètement immergé et d'être face à quelque chose de plus grand que soi. Et justement, tout ce qui est miroir dans l'histoire de l'art, j'ai beaucoup vu que c'était raccordé au narcissisme. Mais pour moi, c'est vraiment une vision d'une représentation de quelque chose qu'il n'y a pas dans la vraie vie. C'est vraiment nous plonger dans une autre dimension et nous pousser plus loin dans la profondeur du noir. Et c'est vraiment ça, pour ça j'avais besoin de ce côté immense et vraiment colossal et imposant dans une pièce qui s'appelait, quand j'ai vu Marbre Noir, j'ai fondu pour cette salle. Je savais que c'était là qu'elle devait être. Il y avait juste une colonne blanche et je la voyais vraiment incorporée dedans.
Et j'en profite pour te demander comment tu as vécu, je sais pas si c'était ta première fois, mais comment tu as vécu ta visite du musée, ta découverte du musée?
La toute première fois que j'avais vu ce musée, c'était justement avec l'école, à l'Académie des Beaux-Arts en secondaire. Et quand je l'ai visité ici avec Inner Space, c'était vraiment encore plus différent, un peu plus joueur, j'ai envie de dire, où on devait essayer de trouver une place qui nous correspondait, où notre art pouvait répondre avec ce qui avait été déjà fait auparavant. Et je trouvais ça vraiment génial. C'était un peu comme une chasse au trésor. Et encore plus la visite la première fois où je me suis promenée partout et j'essayais de deviner quel artiste avait fait quoi. Et si c'était nouveau ou si c'était déjà là à la base. Et c'était vraiment super intéressant, cette chasse au trésor.
Et est-ce que justement tu peux nous expliquer un peu quelle salle tu as choisie et pourquoi?
Alors j'ai choisi la pièce qui s'appelle Marbre Noir, qui regorge tous les marbres, la plupart liégeois, je pense, si je ne me trompe pas. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment ce côté noir profond qui avait ambiance dans la salle. Et j'avais vraiment besoin de reconnecter le spectateur avec ces marbres, mais par le biais de quelque chose de contemporain, de plus récent, et de vraiment ouvrir l'espace au milieu qui l'entoure.
Merci beaucoup à toi Gaëtan, en tout cas pour ton intervention ce soir. On est ravis de t'avoir accueilli. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose peut-être?
Moi je voulais juste te demander si tu avais lu des choses sur ce que Kubrick voulait dire par rapport à son monomythe ou pas du tout?
Oui, je me suis un peu renseignée parce qu'à force d'entendre que ça faisait beaucoup penser à l'Odyssée de l'espace et des choses comme ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté un peu post-apocalyptique de l'homme dans sa perdition, et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort par rapport justement à mon choix de la couleur noire. Et je tiens à préciser que mon œuvre a été faite avant même d'avoir fait le lien à la base avec l'Odyssée de l'espace. C'est vraiment une coïncidence, mais j'accepte le lien qui se fait et je l'adore.
Qui n'est pas un problème du tout.
Je l'adore.
L'idée du vortex ou de d'autres dimensions, c'est tout à fait là.
Je trouve ça très intéressant.
Est-ce que c'est une œuvre qui va nous influencer en bien ou en mal?
Il y a un peu le côté Kubrick. Aussi de la boîte noire, quoi. Moi, je trouve un peu le mystère. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai ressenti en arrivant dans la pièce, de quel est le sens de cette œuvre, pourquoi est-ce qu'elle est là. Enfin, elle ne se livrait pas directement, en fait. Effectivement, il y a un peu le côté, le fait de tourner autour, déjà, la possibilité de l'observer.
Je trouve ça important de pouvoir tourner autour,
voilà,
vraiment.
Et ça, je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Et aussi par rapport à la couleur noire, parce que enfin, si on remonte un peu dans l'histoire de l'art, il y a aussi par exemple le travail de Pierre Soulages qui s'intéresse vraiment justement à cette couleur, à la profondeur et aux différents noirs. Est-ce que, on parlait de Kubrick avant, mais est-ce que tu t'es intéressé un peu à son travail ou...
À Pierre Soulages, énormément.
Ah oui.
Parce que la référence que j'ai vraiment qui pourrait être attachée à lui, c'est que le noir fait naître la lumière. J'ai fait des expériences moi-même dans mon atelier, j'ai essayé de faire des miroirs blancs. Je trouvais ça beaucoup plus limpide, beaucoup moins profond, et le noir fait vraiment naître la lumière et une toute autre atmosphère. Et je me suis vraiment accrochée à cette lumière, par pur hasard d'ailleurs. C'était un accident de base à l'atelier qui est devenu ma source première de recherche.
Ouais, je trouve que c'est une bonne explication. Et il y a le truc, enfin, c'est ce que je suis un peu dans ma phase Covid, mais je veux dire, quand on parle du noir et qui fait émerger la lumière, enfin, moi, ça résonne en moi dans le sens où on est dans une phase, je pense, beaucoup seront d'accord avec moi, assez sombre. Et finalement, c'est la possibilité de réfléchir sur comment on peut faire émerger la lumière de quelque chose qui nous semble un peu dark.
C'est marrant parce qu'on en revient à la résilience de Sophie Van Gogh. Tout est dans tout.
Ce qui veut dire que les artistes sont transpercés par ce qui se passe autour d'eux et le régurgite d'une manière ou d'une autre.
C'est dans l'air.
Et je trouve, et c'est un compliment, tant pis, je l'assume, je trouve que
c'est dans l'art.
C'est dans l'art. C'est une œuvre avec beaucoup de maturité, vraiment.
Merci beaucoup.
C'est vrai, et pour en revenir juste un instant à Kubrick, tu m'as rappelé que son monolithe est censé améliorer l'humanité ou lui amener quelque chose de bénéfique, je pense.
Si ma toile a pu apporter un peu de lumière, j'en suis très contente.
Ah ben, ce sera un magnifique mot de la fin.
Mais oui.
Ça passe trop vite.
Je tiens tout de même à remercier Souplex pour leur accueil plus que chaleureuse et leur très bon goût musicaux.
Mais ça, si c'est pas une soirée de compliments.
Vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Et bien voilà, encore merci à tous et on va écouter Émilie Simon, Flowers.
Au revoir Gaëtane.
Au revoir, merci.
Au revoir.